C'est un peu une course, c'est vrai, mais il est long. Et il fallait quand même essayer de prendre une vue d'ensemble sur le livre. Bien sûr qu'il faut revenir au moins à certains passages, mais j'ai pris dès le départ la décision, ici comme à l'IET d'ailleurs, de faire des lectures continues, même s'il faut aller un peu trop vite, mais une lecture continue, pourquoi? C'est pour que l'on essaie de percevoir la trajectoire qui est à l'intérieur du texte. Quand on prend des textes, on peut les approfondir et les laisser décanter dans notre vie, et il faut le faire certainement, d'où le travail que l'on peut reprendre après. Mais une chose qui n'est pas facile à voir, c'est l'agencement d'un texte. Ce sont des textes qui ont été agencés, donc après l'exil, comme la plupart des livres de la Bible, ont été relus, refaits, et on leur a donné leur toilette actuelle après l'exil. Ce qui fait même dire à certains auteurs, surtout israéliens, non, nous dirions non-croyants, non-pratiquants, que beaucoup de choses ont été inventées par les scribes ou les théologiens après l'exil, comme une réflexion sur l'exil. Et il y en a comme cela. Aujourd'hui, vous trouverez un certain nombre de livres qui sont traduits aussi et qui vous disent ben, toutes les histoires des patriarches jusqu'à David, probablement y compris, tout cela sont des élucubrations des gens d'après l'exil. Ils oublient une chose, ils se basent uniquement sur l'archéologie des pierres, mais ils oublient une chose, qu'il y a aussi une archéologie de la mémoire, et que ça c'est important. Et si les gens ont continué à voir le personnage d'Abraham, même s'il a changé de direction au fur et à mesure des époques, c'est vrai, mais la référence à Abraham signifie quelque chose. Elle signifie la référence à l'unité d'une expérience de Dieu à travers les siècles et par des personnages très divers. À telle enseigne que l'Ancien Testament, qui est en fait une bibliothèque, c'est une bibliothèque unifiée. C'est vrai qu'elle a été unifiée par les théologiens d'après l'exil, qui sont, à mon estime, vraiment sur le plan théologique des génies. Ce n'est pas du tout qui ils sont, ce sont des anonymes, mais ils ont fait un travail de réflexion profonde, comme on dit aujourd'hui, de relecture, et de relecture de textes qui étaient déjà des relectures, mais c'est vraiment un approfondissement spirituel extrêmement profond. Et on voit bien que lorsque on lit en lecture continue tout ce que nous appelons l'Ancien Testament ou le Premier Testament, on a un langage, un dynamisme et des expressions qui permettent de recevoir le nouveau et qui permettent de découvrir ce qu'est l'accomplissement. Et l'accomplissement ne signifie pas que ce qui est inaccompli a disparu de la circulation. Ça ne signifie pas que l'Ancien Testament est devenu un objet de musée, non. Mais ça lui donne une vigueur, une force nouvelle à cet Ancien Testament. Jésus ne le supprime pas du tout. Jésus l'accomplit. C'est pas du tout la même chose.
C'est comme un être humain, il refait toute l'évolution aussi.
Exactement.
Les gens, pourquoi est-ce qu'on lit encore l'Ancien Testament? Parce qu'on n'est pas encore chrétien à fond, il faut refaire tout le chemin.
Tout à fait. Et nous ne devons jamais oublier que le Nouveau Testament n'est pas encore achevé en nous. Il est achevé dans la personne du Christ, et nous ne sommes pas encore devenus le corps du Christ, tout à fait, hein. Tant s'en faut, il y a encore beaucoup de résistance et de refus, mais il y a une purification qui se fait. Et donc, nous ne pouvons pas nier que nous sommes après le Christ, mais d'une autre manière, nous sommes encore avant lui. Et nous ne pouvons jamais dire que notre Église, c'est le royaume des cieux. Il est déjà là, le royaume des cieux, mais pas encore là. C'est le déjà là du pas encore. Ou le pas encore du déjà là, comme vous voulez. Et donc, c'est important de lire et de relire comme cela en continu. Ou en tout cas, de l'avoir, si nous ne le relisons pas constamment, de l'avoir un peu dans la mémoire, pour découvrir les trajectoires. Je crois que ce qui est le plus important lorsque nous lisons aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, hein, toute la Bible, c'est d'avoir en tête ces trajectoires, hein, des chemins qui s'ouvrent. On peut parler de trajectoire, j'aime bien ça parce que ça signifie le chemin. Et on peut parler aussi de germe. Vous avez tout en germe et le germe vit et donc s'ouvre et se développe. Et le fruit est déjà dans le germe, mais le fruit, le germe n'est pas encore le fruit. Alors, c'est ça qui est un peu difficile à voir, c'est à lire notre trajectoire propre, le récit de notre existence, à travers ces chemins qui nous sont offerts. Nous pouvons toujours trouver des bouts de chemin que nous pouvons faire avec Jérémie, avec Abraham, avec Moïse, avec David, toujours des bouts de chemin qu'on peut faire avec eux. Mais donc, ce que nous avons devant nous, c'est pris à une information qui était fiable, qui était historique à l'époque, hein, les archives de la maison de Juda ou les archives de la maison royale d'Israël, c'est vrai, mais c'est déjà une relecture spirituelle, une relecture dans la prière et dans l'approfondissement intérieur. Alors, il nous reste encore à voir les derniers oracles sur ou à propos ou contre, comme vous voulez, les nations. Contre, ça se dit « be » en hébreu, c'est-à-dire « sur » ou « tout près ». Alors, vous avez un oracle sur Damas. Damas ou Aram, c'est la même chose, les Araméens viennent de la région de Damas, de la Syrie, ce que nous appelons la Syrie aujourd'hui. Bon, ce sont des gens qui jouent un jeu dangereux. Les gens de Damas, même si on a emprunté leur langue, l'araméen, hein, on parle encore araméen à l'époque de Jérémie, en Israël on parle l'araméen, hein, qui va supplanter petit à petit l'hébreu, en tout cas après l'exil, c'est le cas. Ce sont des gens qui jouent un peu sur tous les tableaux. Pas tout à fait des profiteurs comme le sont les Édomites, mais ce sont des gens qui clochent, hein, des deux jarrets, comme le dirait Élie. Oh. Hamat est confuse, ainsi qu'Arpad, donc les anciennes villes de Syrie. Elles ont reçu une mauvaise nouvelle, leur cœur se pâme d'épouvante et ne peut se calmer. Damas se décompose et s'apprête à la fuite. Le tremblement l'a prise, angoisse et douleur l'ont prise comme une femme en couche. C'est toujours l'expression qui revient pour la souffrance, qui est à la fois une souffrance de vie, mais qui exprime la mort.
Chapitre 49, verset
23-24. Quoi, la voilà désertée, la cité célèbre, la ville joyeuse? Aussi, ces jeunes hommes tomberont sur ces places et tous ces hommes de guerre périront ce jour-là, oracle du Seigneur Sabaoth. J'allumerai le feu dans les murs de Damas, il dévorera les palais de Ben-Hadad. Ben-Hadad, le fils de Hadad. Hadad, c'est le dieu de la guerre, hein, le dieu de qui brandit, vous voyez parfois sur des reproductions, qui brandit l'épée. Hadad, c'est donc une divinité. Ben-Hadad, c'est le roi qui est fils de la divinité. Et puis, tant qu'on y est, hein, on vient de parler du nord, la Syrie c'est au nord, on va parler du sud, c'est-à-dire les Arabes, hein, l'Arabie. Sur Kedar, Kedar, ce sont les tentes de Kedar, les tentes des nomades d'Arabie. Et les royaumes de Hatsor, que vainquit Nabucodonosor, roi de Babylone, ainsi parle le Seigneur. Levez-vous, montez contre Kedar, ruinez les fils de l'Orient. Leurs tentes et leurs moutons, qu'on les emmène. Leurs étoffes et tous leurs ustensiles, qu'on les enlève, qu'on leur enlève leurs chameaux et qu'on crie sur eux, terreur de tous côtés. Ça, c'est toujours ce que Jérémie doit dire, terreur de tous côtés. Donc, ce sont des nomades, ceux-ci. Les nomades sont ceux qui font généralement le commerce entre les villes. Et puisqu'ils ont des troupeaux, qui fournissent en viande, en troupeaux, les différentes villes. Fuyez, partez vite, cachez-vous bien, habitant le Hatsor, oracle du Seigneur. Ce n'est pas le Hatsor du nord de Galilée. Hein. C'est un Hatsor qui se trouve en Arabie. Car Nabucodonosor a médité contre vous un projet, formé contre vous un plan. Debout, montez contre la nation sans souci, qui demeure en sécurité, qui n'a ni porte ni verrou, qui habite à l'écart. Leurs chameaux seront un butin, leurs moutons innombrables une proie. Je vais les disperser à tout vent, c'est tempes rasées. Ça, comme ils n'avaient pas de cheveux sur les côtés, ils étaient rasés, tempes rasées. Voilà comment on les appelait les Arabes. De tous côtés, j'amènerai leur malheur, oracle du Seigneur. Hatsor deviendra un repère de chacal, un désert pour toujours. Personne n'y habitera plus, aucun humain n'y fera séjour. Reconnaissons le chapitre 34-35 d'Isaïe. Les villes transformées en désert. Bon, on va aller maintenant encore au nord, mais à l'est, au nord-est. On n'a pas encore atteint Babylone. On est en train d'enserrer Babylone. Élam, les Élamites, ou les Mèdes et les Perses, hein, c'est donc déjà plus du côté de l'Iran actuel. Parole du Seigneur qui fut adressée au prophète Jérémie au sujet des lames. Au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda. Ces titres ont été évidemment placés après, probablement basés sur une tradition, mais que nous ne pouvons absolument pas vérifier. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Je vais briser l'arc des lames. C'est des gens réputés, des archers réputés. Et souvent les Élamites vivaient comme, enfin, se louaient comme mercenaires dans les armées, et notamment dans les armées de Mésopotamie. J'emmènerai sur Élam quatre vents des quatre extrémités du ciel, et je disperserai les Élamites à tous ces vents-là. Il n'y aura pas de nation où n'arrivent des gens chassés d'Élam. En fait, c'est justement parce que, hein, comme c'était de bons soldats, de bons guerriers, hein, ils pouvaient faire un bataillon d'archers dans différentes armées, et parfois des armées qui luttaient les unes contre les autres. Vous en aviez à la fois chez les Assyriens et chez les Babyloniens, même quand ils étaient opposés. Comme aujourd'hui, hein, on vend des armes aux Israéliens et aux Palestiniens. En même temps. Si ça rapporte, pourquoi pas? Je ferai trembler les Élamites devant leurs ennemis, devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux le malheur, ma colère brûlante, j'enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à ce que je les ai exterminés. J'établirai mon trône en Élam, j'en extirperai roi et dignitaire, oracle du Seigneur. C'est vrai que les Élamites vont être conquis par les Mèdes et puis par les Perses. Mais dans l'avenir, alors voilà le petit refrain, je changerai le sort des lames, oracle du Seigneur. Chouf, chevout, je ferai retourner le retour. Et nous arrivons à l'autre extrémité, nous sommes partis d'Égypte, nous avons fait le tour d'Israël, des ennemis tout autour d'Israël, et puis nous montons maintenant à l'opposé, du sud au nord. Vous retrouvez exactement la même disposition. On voit bien que ce sont les mêmes qui ont arrangé les textes, la même disposition dans le livre d'Isaïe. Mais dans le livre d'Isaïe, vous avez un double chemin. Un chemin de l'Égypte à Babylone et de Babylone en Égypte. Un va et vient. Justement, pour manifester le va-et-vient des armées hein, qui luttent toujours l'une contre l'autre. On va chez l'autre pour essayer de le posséder. Maintenant, on va parler de la chute de Babylone. Donc, on est déjà bien plus loin que Nabucodonosor. On est à la fin de l'histoire babylonienne, on est à la fin de l'exil, et on est au moment où Cyrus commence ses campagnes, chapitre 48e du deuxième Isaïe, du livre d'Isaïe, commence ses campagnes, et petit à petit, prend ville après ville. Mais Babylone, il l'a prise sans coup férir. Donc, par surprise. Annoncez la nouvelle parmi les nations. Publiez-la. Ne cachez rien. Proclamez. Babylone est prise. Belle. Belle, c'est le dieu de Babylone. Belle confondue. Marduk, l'autre dieu, important, écroulé. Merodach, vous avez la ville Merodach, la ville, c'est le serviteur. Merodach, c'est Marduk. Les deux dieux, c'est Bel, les trois dieux, Bel, Nebo et Marduk, que vous voyez constamment dans le texte. Donc, ne cachez rien, proclamez Babylone est prise. Babylone, Bab-Ilani, ça veut dire la porte des dieux. Bab, encore en arabe, aujourd'hui Bab, c'est la porte. El, Bab, El, c'est Dieu. Et le pluriel, dans la langue mésopotamienne, en assyrien, Ilani, Bab Ilani, c'est la porte des dieux. Donc Babylone, c'est le piédestal des dieux. Ses idoles sont confondues, ses saletés écroulées. Car du nord monte contre elle une nation qui fera de son pays un désert, nul n'y habitera plus, hommes et bêtes ont fui, ont disparu. Vous voyez, les phrases que l'on a dites pour les autres, ça vaut aussi pour Babylone. Autrement dit, tous les royaumes, même les plus grands, même les grands empires, n'ont qu'un temps. Même le marxisme, et je termine, en queue de poisson, hein. Et en ces jours et en ce temps, les enfants d'Israël reviendront. Ils feront route en pleurant pour chercher le Seigneur leur Dieu. Donc le retour est comme une recherche de Dieu. Ils réclameront Sion. Vers elle, ils tourneront leur face. Venez, attachons-nous au Seigneur par une alliance éternelle et inoubliable. Ce que Dieu prédisait à travers le prophète va être reconnu comme réalité par les gens qui vont revenir. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Hein? Vous reconnaissez Matthieu, hein? Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes, de montagne en colline elles allaient, oubliant leur bercail. On n'avait plus de repères. Maintenant, hein, si on se tourne à nouveau vers le Seigneur, vers l'unique, si on retourne à Jérusalem, hein, on va retrouver ses repères, ou plutôt hein, son repère essentiel. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Leurs ennemis disaient, nous ne sommes pas en faute, puisqu'elles ont péché contre le Seigneur. comme si... Ils se mettaient dans la peau des prophètes, les étrangers, pour dire, bon, c'est pas nous, hein, pas nous, hein. Vous avez péché, alors on vous punit, c'est normal. Oui, et est-ce qu'on est nommé pour prendre la place du Seigneur et pour juger à sa place? Ça, c'est le grand problème. Puisqu'elles ont péché contre le Seigneur, le vrai pâturage et l'espoir de leur père. On voit bien que c'est relu par le prophète, hein. Fuyez du milieu de Babylone et du pays des Chaldéens, sortez! Sortez comme des boucs en tête du troupeau, car voici, je vais susciter contre Babylone une réunion de grandes nations. Donc, on dit au peuple de sortir de Babylone. Mais c'est déjà l'édit de Cyrus. Hein. Arrivant du pays du nord, elles se rangeront contre elles. C'est par là qu'on doit la prendre. Leurs flèches sont comme un héros victorieux qui ne revient jamais les mains vides. La Chaldée sera mise au pillage. Tous ces pilleurs en auront leur sou. Ah, réjouissez-vous, triomphez-vous, les ravageurs de mon héritage, bondissez tels dévots mis au pré, hennissez comme des étalons. Votre mère est toute couverte de honte, elle rougit de confusion, celle qui vous enfanta. Maintenant, elle est la dernière des nations. Votre mère, c'est probablement la reine du ciel, c'est-à-dire la déesse Ishtar, vraisemblablement. Mais on ne sait pas tout à fait si c'est cela qu'il faut lire. Ou bien la mère, c'est Babylone, ou bien c'est la déesse. C'est probablement l'un et l'autre. Maintenant, elle est la dernière des nations. Désert, aridité, steppe. La colère du Seigneur la fera déserter. Elle deviendra une solitude totale. Quiconque passera près de Babylone en restera stupéfait et sifflera à la vue de toutes ses blessures. Vous avez toujours les mêmes expressions qui sont dites de temps en temps contre l'un, de temps en temps contre l'autre. Rangez-vous contre Babylone, encerclez-la, vous tous qui bandez l'arc. Ce sont les Élamites, là, hein, et les Perses. Tirez sur elle, ne ménagez pas les flèches. Et ceux qui ont vu, ou en reproduction ou en réel, la galerie de Persépolis, hein, verront tous ces archers, hein, de Cyrus, qui marchent en bon ordre pour contre Babylone, précisément, pour prendre la ville. Tirez sur elle, ne ménagez pas les flèches, poussez contre elle le cri de guerre de tous côtés. Elle tend les mains, ses bastions croulent, ses remparts sont renversés. C'est la vengeance du Seigneur. Vengez-vous d'elle. Faites-lui comme elle a fait. Extirpez de Babylone celui qui sème et celui qui tient la faucille au temps de la moisson. Loin de l'épée dévastatrice, que chacun retourne à son peuple, que chacun fuit vers son pays. Enfin, tous ceux qui ont été captifs, tous ceux qui ont été amenés captifs à Babylone, ils peuvent sortir et rentrer chez eux. Et puis, Israël était une brebis égarée que pour chasser les lions. Tout d'un coup, comme ça. On reparle d'Israël comme, hein, nous venons justement de voir, il y avait un petit entrefilet, on parlait de Babylone, mais on parle d'Israël. Israël qui peut rentrer. Et qui est, en quelque sorte, hein, les prémices de ceux qui rentrent. Comme le bouc, hein, qui est à la tête du troupeau. Le premier, le roi d'Assour, l'a dévoré. Et puis Nabuchodonosor, roi de Babylone, lui a brisé les os. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Sabaoth. C'est lancé sur Israël et sur Juda. Hein. Le premier, c'est la Syrie, Sargon II, qui a pris Samarie, hein, en 722. Et puis, la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Me voici pour visiter le roi de Babylone et son pays, comme j'ai visité le roi d'Assour. Et je vais ramener Israël à son pacage pour qu'il paisse au Carmel et en Bashan. Le Carmel, c'est à l'ouest, et le Bashan, c'est à l'est. Et que sur la montagne d'Éphraïm et en Galaad, ça c'est déjà vers le centre, Éphraïm, c'est le centre, c'est aujourd'hui, hein, la... le territoire de Samarie, hein, le sud de la Samarie, et le Galaad est de l'autre côté du Jourdain. Et que sur les montagnes d'Éphraïm et en Galaad, il puisse devenir gras, hein, le troupeau. En ces jours-là et en ce temps-là, on cherchera l'iniquité d'Israël. Elle ne sera plus pardonnée. Hein. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus. Car je pardonnerai au reste que je laisse. Et voilà donc ceci qui répond au chapitre 31, versets 31 à 34. La connaissance du Seigneur, c'est dans le pardon. Car on ne retrouvera plus les fautes, les péchés, car je pardonnerai au reste que je laisse. Monte au pays des Merataïm, monte contre lui et contre les habitants de Pekod. Mets-toi, Pekod Fakat, c'est la visite, hein, c'est un jeu de mots sur la visite, c'est-à-dire le jugement. Mets-toi à leur poursuite, manie l'épée, extermine les oracles du Seigneur, exécute tous mes ordres. Fracas de bataille dans le pays, désastre immense. Quoi? Il a brisé et mis en pièces le marteau du monde entier? Quoi ? Elle est devenue une épouvante, Babylone, parmi les nations ? On t'a tendu un piège ? Tu fus prise ? Sans t'en apercevoir ? Tu fus saisie et maîtrisée ? Ô Seigneur, tu t'en prenais. Le Seigneur a ouvert son arsenal et sorti les armes de sa colère. C'est qu'il y avait du travail pour le Seigneur au pays des Chaldéens. Venez-y tous sans exception, défoncez ces greniers, entassez le butin comme gerbe, appliquez-lui l'anathème, que rien n'en reste. Ça, c'est l'éditorial de la Gazette de Jérusalem. Qui vous dit, attention, hein, Babylone a été prise. Égorgez tous ces taureaux, qu'ils descendent à l'abattoir. Malheur à eux, il est arrivé leur jour, le temps où ils sont visités, écoutés, fuyards et rescapés du pays de Babylone, viennent annoncer dans Sion la vengeance du Seigneur notre Dieu. Convoquez les archers contre Babylone. Vous tous qui bandez l'arc, campez autour d'elle. Qu'on ne lui laisse pas d'issue. Payez-la selon ses œuvres. Tout ce qu'elle a fait, faites-le lui. Car elle fut insolente devant le Seigneur, devant le Saint d'Israël. C'est encore l'œil pour œil, dent pour dent. Hein. Vous savez, ça n'a pas changé. Hein. Un attentat d'un côté, hein, 10 attentats de l'autre. Aussi ces jeunes gens tomberont sur ces places, et tous ces hommes de guerre périront ce jour-là, oracle du Seigneur. C'est à toi que j'en ai, insolence, oracle du Seigneur, le Dieu des armées. Ton jour est arrivé, le temps où je te visite, insolence va être culbutée, elle tombera, nul ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, il dévorera tous ses alentours. Donc voilà que Babylone est décorée du titre d'insolence. Celle qui s'oppose en quelque sorte au dessein de salut de Dieu, mais en même temps qui le sert. Le mélange des intentions. Nous en parlerons tout de suite. Ainsi parle le Seigneur des armées. Les enfants d'Israël sont opprimés. Tous ceux qui les ont faits captifs les tiennent. Ils refusent de les lâcher. Mais leur rédempteur, tiens voilà que le mot arrive ici, le Goël. Le Goël, c'est celui qui rachète, mais qui risque sa vie pour racheter. Celui qui peut racheter, qui a le droit de rachat, mais en risquant sa vie. Mais leur rédempteur, leur Goël est puissant. Le Seigneur des armées, voilà son nom. Il a pris en main leur cause. Il va donner du repos au monde, mais faire trembler les habitants de Babylone. Épée contre les Chaldéens, contre les habitants de Babylone, contre ses chefs et ses sages. Épée contre ses devins, qu'ils déraisonnent. Épée contre ses guerriers, qu'ils aient peur. Épée contre le ramassis, qu'elles recèlent, qu'elles soient comme des femmes. Épée contre ses trésors, qu'on les pille. Épée contre ses eaux, qu'ils tarissent. De petits poèmes, hein. Ont mis bout à bout de petits poèmes qui servent d'éditorial. Car c'est un pays d'idoles. Ils sont fous avec leurs épouvantails, leurs dieux. Aussi des lynx gîteront avec des chacals, c'est-à-dire ça sera de nouveau un désert et les animaux sauvages viendront y habiter. Les autruches y auront leur demeure. Elle ne sera plus habitée, d'âge en âge, elle ne sera plus peuplée. Chapitre 34e d'Isaïe, c'est les mêmes comparaisons. Comme au temps où Dieu renversa Sodome, Gomorre et les villes voisines, oracle du Seigneur, personne n'y habitera plus, aucun humain n'y fera plus séjour. Voici qu'un peuple arrive du nord, une grande nation. Les rois puissants s'animent aux confins du monde. Ils ont au poing l'arc et le javelot. Ils sont barbares et impitoyables. Leur bruit est comme le mugissement de la mer. Ils montent des chevaux. Chaque homme est équipé pour la bataille. Contre toi, fille de Babylone. Babylone, fille. Hein. Le roi de Babylone a appris la nouvelle. Les mains lui retombent. L'angoisse l'a pris. Une douleur comme celle de l'accouché. Donc ce sont différents poèmes qui sont ajoutés les uns aux autres pour annoncer la chute de Babylone. Ou bien après. Vois, tel un lion qui monte des fourrés, et ça c'est une image que nous avons déjà vue au chapitre 49e, c'est une reprise, vers un pâturage toujours vert, Ainsi, en un clin d'œil, les ferai-je déguerpir de là pour y établir qui me plaira, qui en est fait mon égal, qui pourrait m'assigner en justice, quel est donc le pasteur capable de me tenir tête. Pasteur, c'est le roi, le chef. Aussi, apprenez le dessein que le Seigneur a formé sur Babylone et le plan qu'il a résolu sur le pays des Chaldéens. Oui, même les plus chétives brebis seront traînées. À leur vue, leur pacage frissonnera d'épouvante. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble. Le cri qu'on fait sur elle s'entend parmi les peuples. Bon, c'est le contraste. Même la ville qui tenait tout sous sa domination, cette ville est aussi fragile que le reste. Les grandeurs humaines sont caduques. Ainsi parle le Seigneur. Je vais exciter contre les habitants de l'Efkamaï, c'est un jeu de mots, qui veut dire les Chaldéens, contre l'Efkamaï, un esprit destructeur. J'enverrai à Babylone des vanneurs pour la vanner, nettoyer son territoire, car on va l'assiéger de tous côtés au jour du malheur, qu'aucun archer ne bande son arc. Qu'on cesse de se pavaner dans sa cuirasse. Pas de quartier pour ses cadets. Voué à l'anathème son armée entière, des blessés tomberont au pays des Chaldéens, des transpercés dans les rues de Babylone. C'est que leur pays était plein de péchés contre le Saint d'Israël. Mais Israël n'est point veuve de son Dieu, du Seigneur Sabaoth. Toujours ce contraste. Fuyez l'enceinte de Babylone, sauvez chacun votre vie, ne périssez pas dans son châtiment, car c'est un temps de vengeance pour le Seigneur, il va lui payer son dû. C'est toujours cette idée, Babylone est tombée sur les différents peuples d'alentour pour les prendre, et en effet, Israël n'était pas fidèle à son Dieu, n'était pas fidèle à l'Alliance, donc c'est un juste châtiment. Mais attention, Babylone va trop loin, elle veut dominer, ça ne va plus. Alors il faut se retourner contre Babylone. C'est un peu une manière un peu enfantine encore de dire que le Seigneur essaie d'équilibrer les choses. Il y a une justice, et le terme de justice arrive très souvent chez Jérémie comme chez les autres d'ailleurs. Babylone était une coupe d'or aux mains du Seigneur. Elle enivrait la terre entière, les nations s'abreuvaient de son vin, et puis devenait folle. On se laissait attirer par la grandeur de Babylone. Soudain, Babylone est tombée, s'est brisée, ululée sur elle, allait chercher du baume pour son mal. Peut-être va-t-elle guérir. Nous voulions guérir Babylone, elle n'a pas guéri. Laissons-la, allons-nous-en, chacun dans son pays. Oui, le jugement qui la frappe atteint jusqu'au ciel, s'élève jusqu'aux nues. Le Seigneur a fait éclater notre justice, Tzidkenu. Le Seigneur, notre justice, c'était le nom prophétique donné à Jérusalem, au chapitre 23, et encore 32. Venez, racontons dans Sion l'œuvre du Seigneur, notre Dieu. Et encore un autre poème, ce sont des poèmes les uns derrière les autres. Affûter des flèches, emplisser des carquois, le Seigneur a excité l'esprit du roi des Mèdes. Ah, car il a ce projet contre Babylone de la détruire. C'est la vengeance du Seigneur, sa vengeance pour son temple. Contre les remparts de Babylone, levez l'étendard, renforcez la garde, mettez des sentinelles, dressez des embuscades, car le Seigneur avait un projet. Et il a fait ce qu'il a dit contre les habitants de Babylone. Toi qui sièges au bord des grandes eaux, on connaît la tradition des grands jardins de Babylone qui se trouvaient au bord du Tigre. Toi qui sièges au bord des grandes eaux, toi riche en trésors, ta fin est arrivée, le terme de tes rapines, le Seigneur Sabaoth l'a juré par lui-même. T'aurais-je rempli de gens aussi nombreux que sauterelles, on poussera le cri de guerre contre toi. Il a formé la terre par sa puissance, Dieu, établit le monde par sa sagesse, et par son intelligence étendu les cieux. Quand il donne de la voix, c'est un mugissement doux dans le ciel. Il fait monter les nuages du bout de la terre. Il produit des éclairs pour l'averse et tire le vent de ses réservoirs. C'est l'image que nous trouvons dans tout le Proche-Orient du Dieu qui est semblable à l'orage, parce que sa lumière dépasse toutes les lumières humaines et sa voix, la voix du tonnerre, dépasse toutes les voix humaines. Alors tout homme se tient stupide, ignare. Chaque orfèvre lui rougit de son idole. Ses statues ne sont que mensonges. À quoi manque le souffle ? Elles sont un néant, un ouvrage ridicule. Au temps de leur châtiment, elles disparaîtront. Telle n'est pas la part de Jacob. La part de Jacob, c'est le Seigneur, hein, unique. Car il a façonné l'univers, et Israël est la tribu de son héritage. Son nom est le Seigneur des armées. C'est un passage qui est tout à fait d'ordre sapientiel, ceci. Hein, la référence à la création. Et alors, encore un autre poème. Tu fus un marteau à mon usage, une arme de guerre. Avec toi j'ai martelé les nations, avec toi j'ai abattu les royaumes, les gouvernements. Avec toi j'ai martelé cheval et cavalier, avec toi j'ai martelé char et charrier. Avec toi j'ai martelé hommes et femmes, avec toi j'ai martelé vieillards et enfants, avec toi j'ai martelé adolescents et vierges, avec toi j'ai martelé bergers et troupeaux, avec toi j'ai martelé laboureurs et attelages, avec toi j'ai martelé gouverneurs et dignitaires. Dieu s'est servi de la puissance des hommes. Dit en langage un peu plus perceptible aujourd'hui, Dieu est passé à travers tout cela. Dieu n'ignorait pas ce que les hommes font, mais il est passé à travers. Mais sous vos yeux, je ferai payer à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion, oracle du Seigneur. C'est à toi que j'en ai, montagne de ravage, Babel, oracle du Seigneur, la ravageuse de l'univers, je vais étendre contre toi ma main, te faire rouler du haut des rochers, te réduire en montagne embrasée, on ne tirera plus de toi ni pierre d'angle, ni pierre de fondation. Car tu deviendras un désert pour toujours, oracle du Seigneur. Effectivement, Babylone n'a pas été rebâtie, elle a fini par tomber. Bagdad est plus au nord. Je reprends encore quelques textes qui ont été, on voit bien, ajoutés pour faire masse. Hein, pour montrer le contraste entre le petit Israël, hein, la petite brebis chétive, et le colosse de Babylone. Levez l'étendard par le monde, sonnez du cor parmi les nations, préparez les nations à l'attaque, convoquez contre elles des royaumes, Ararat, Minni, Ashkenaz. Ashkenaz dit l'Arménie. Hein, Ashkenaz, c'est l'Est. Et Ashkenaz va être repris de l'Est, des peuples orientaux, c'est-à-dire de la Russie, la Pologne, etc. C'est l'Est. Mandez contre elle l'officier d'enrôlement. Faites donner la cavalerie, horde de sauterelles hérissées. Préparez les nations à l'attaque. Le roi de Médie, ses gouverneurs, tous ses dignitaires et tout le pays en sa possession. On arrive chez Cyrus. Alors la terre trembla et frémit. C'est que s'exécutait contre Babylone le plan du Seigneur. Changer le territoire de Babylone en un désert inhabité. Les vaillants de Babylone ont cessé le combat, ils se sont blottis dans les citadelles. Leur force est à bout, ils sont devenus des femmes. On a mis le feu à ses habitations, ses verrous sont en pièces. Courrier sur courrier s'ébranle, messager sur messager, pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est enlevée de tous côtés, les passages occupés, les redoutes incendiées, et les hommes de guerre pris de panique. Car ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël, la fille de Babylone est pareille à une ère au temps où on la foule. Encore un peu, et ce sera l'arrivage des épis moissonnés. Il m'a dévoré, consommé, le roi de Babylone. Il m'a laissé comme un plat vide. Il m'a englouti, ainsi qu'un dragon. Il a empli son ventre de mes bons morceaux. Sur Babylone, mon outrage et mes souffrances, dit la population de Sion. Une élégie du côté de Sion maintenant. Sur les habitants de Chaldée, mon sang, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, je prends en main ta cause, j'assure ta vengeance, je vais assécher son fleuve et tarir ses sources. Babylone deviendra un tas de pierres, un repaire de chacals, stupéfaction et sifflement, et pas un habitant. Tels des lions, ils rugissent ensemble, ils grondent pareil à des lionceaux. Ils ont chaud, je leur apprête un breuvage, je les ferai boire, qu'ils en soient hébétés, tombent en sommeil éternel et ne puissent plus s'éveiller, oracle du Seigneur. Je les ferai descendre comme des agneaux à l'abattoir, comme des béliers et des boucs. Quoi, elle est prise, elle est conquise, la célébrité du monde entier. Quoi, elle est devenue une épouvante, Babylone, parmi les nations. Contre Babylone, la mer est montée, ses flots tumultueux l'ont submergé. Ces villes sont changées en désert, en terre aride et en steppe. Aucun homme ne les habite, personne n'y passera plus. Enfin, c'est toujours le thème. Le désert, il n'y a personne. Je rendrai visite à Bel, le dieu Bel, dans Babylone. Je lui retirerai de la bouche ce qu'il a englouti. Vers lui n'afflueront plus les nations désormais. Déjà le rempart de Babylone est tombé. Sors de ton enceinte, mon peuple, que chacun de vous sauve sa vie de l'ardente colère du Seigneur. Et échapper à Babylone, hein, au moment où elle tombe, tous les prisonniers, tous les captifs, vous pouvez partir, dépêchez-vous seulement. Mais que votre cœur ne défaille point. Ne vous effrayez pas des nouvelles colportées dans le pays. Une année, tel bruit se répand, et puis l'année d'après, tel autre. La violence triomphe sur terre, et un tyran en élimine un autre. Pas c'est le jeu des hommes. Aussi, voici venir des jours où je visiterai les idoles de Babylone. Son territoire entier sera dans la honte, et tous ses tués gisant dans son sein. Alors jubileront sur Babylone le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme, parce que du nord arrive contre elle les dévastateurs, oracle du Seigneur. Le jeu des hommes, c'est le jeu de la vengeance. Babylone, à son tour, doit tomber pour les tuer d'Israël. Ainsi pour Babylone tombèrent les tués de la terre entière. Vous, les réchappés de son épée, partez, ne restez pas là. Souvenez-vous du Seigneur sur cette terre lointaine. Et que Jérusalem vous remonte au cœur. Là, c'est le souvenir qui devient vivace, qui devient actualité. Nous étions dans la honte, entendant l'insulte, la confusion couvrait nos fronts. C'est que des étrangers étaient entrés dans les lieux saints du temple de Yahvé. Eh bien, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je visiterai ces idoles, où je manifesterai que l'idole ne vaut rien, que je suis le salut, l'unique. Et dans tout son territoire, gémiront ceux qu'on tue. Babylone escaladerait-elle le ciel? Renforcerait-elle sa citadelle inaccessible? Sur mon ordre lui viendront des dévastateurs, oracle du Seigneur. Ça ne sert à rien. Écoutez la clameur qui sort de Babylone, l'immense craquement du pays des Chaldéens. C'est le Seigneur qui dévaste Babylone. Il fait cesser son grand bruit. Ses flots peuvent gronder comme les grandes eaux et le tumulte de leur voix retentit. Car un dévastateur fond sur Babylone, Cyrus. Ses guerriers sont faits captifs. Leur arc est brisé. Oui, le Seigneur est le Dieu des représailles. Il paie strictement. Voilà, une manière encore de lire les choses. Hein. Je ferai boire ces grands et ces sages, ces gouverneurs, fonctionnaires et guerriers. Ils tomberont en sommeil éternel, ne pourront plus s'éveiller. Oracle du roi, dont le nom est le Seigneur Sabaoth. Contre tous les rois, il y a un roi. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Le large rempart de Babylone sera rasé totalement. et ces hautes portes seront brûlées. Ainsi les peuples travaillent pour le néant et les nations peinent pour le feu. Saddam Hussein avait commencé un travail de relèvement des murailles de Babylone. Reconstruction des murailles de Babylone. Et pour terminer tout ça, parce que ça termine le livre, le reste, le dernier chapitre, le chapitre 52, est repris à la fin du deuxième livre des rois. J'en dirai encore un petit mot. Mais vous avez quelque chose d'essentiel. Un oracle. Et on l'a mis là, pas du tout pour rien. Après vous avoir fait voir cette grande fresque, du jugement des nations, hein, c'est de ça qu'il s'agit finalement. Un petit entrefilet. Voici l'ordre que donna le prophète Jérémie à Seraïa, fils de Neria, fils de Maaseïa. Tiens, ce n'est plus Baruch. Quand celui-ci partit pour Babylone, sur l'ordre de Sédécias, roi de Juda, en la quatrième année de son règne, Seraïa était chargé des étapes, hein, c'est-à-dire de baliser le chemin, le gendarme qui accompagnait les convois qui allaient vers Babylone. Or, Jérémie avait mis par écrit dans un seul livre tout le malheur qui devait survenir à Babylone. Tous les poèmes que nous venons de lire, quoi. Hein? Et toutes ces paroles qui avaient été écrites au sujet de Babylone. Jérémie dit donc à Seraïa, quand tu arriveras à Babylone, veille à prononcer toutes ces paroles-là. Et tu diras, Seigneur, toi-même as déclaré sur ce lieu qu'il serait détruit et que nul n'y mettrait plus ni homme ni bête, mais qu'il serait un désert pour toujours. C'est bien la parole du Seigneur qui entre au cœur de Babylone, qui touche finalement Babylone.